Maintenant, passons à l'autre sujet que tu voulais aborder, celui de ta vie professionnelle. Je vois dans ton dossier que tu travailles dans une boutique de vêtements pour dames. Tu as aussi mentionné que tu as fait faillite. Quel problème vis-tu en ce moment? Après que David est parti de la maison, je me suis dit qu'il fallait que je travaille. J'ai donc trouvé un emploi dans une petite boutique de lingerie pour dames. Je travaillais pour une dame assez âgée et j'aimais bien travailler avec elle. Elle est tombée malade et m'a offert de me vendre sa boutique. Elle me demandait seulement un petit montant pour commencer et ensuite je devais la payer tous les mois. C'était une chance inespérée. Maman m'a donné la somme initiale dont j'avais besoin en me disant que ce serait mon héritage. Je nageais dans le bonheur. Mais peu à peu, je me suis aperçue que ça demandait beaucoup de travail. Je devais m'occuper de tout, des achats, de la comptabilité, de la jeune employée que j'ai dû engager, des rénovations de la boutique, de la compétition, de la publicité, etc. Enfin, il y avait toujours quelque chose à faire. J'étais de plus en plus fatiguée et j'ai commencé à ne plus aimer mon travail. C'était devenu une corvée de me lever le matin. J'avais beau demander de l'aide à Mario et à David, il me disait de vendre ce magasin si c'était une charge trop lourde pour moi. J'ai bien essayé de le vendre, mais je devais laisser paraître que ce magasin représentait beaucoup de travail et je faisais peur aux éventuels acquéreurs. Personne ne voulait m'aider. De plus, j'ai fait des erreurs de commande en achetant trop de choses qui ne se revendaient pas bien et je me suis endettée envers la banque. Je n'arrivais plus à payer la dame qui m'a vendu la boutique. Et je me sentais très mal dans cette situation. J'ai dû faire faillite sur les conseils de mon comptable. Je me sens encore coupable face à cette dame qui a été très gentille avec moi. Lors de la faillite, elle n'a reçu qu'une partie du montant que je lui devais. Te souviens-tu de ce dont tu t'es accusé quand c'est arrivé? De tous les noms, voyons. De sans-cœur, d'incapable, de lâche, d'égoïste, d'abandonné en faisant faillite. J'ai souvent pensé que, si j'avais persévéré et trouvé quelqu'un qui aurait voulu s'associer avec moi, tout cela ne serait pas arrivé. Pendant au moins 2 ans, je n'arrêtais pas de penser à toutes les solutions que j'aurais pu trouver. Je n'en dormais pas la nuit. Un jour, mon amie Nicole m'a dit que si je ne me libérais pas de cette obsession, j'en tomberais malade et cela n'arrangerait rien. Maintenant, j'y pense moins souvent. Après la faillite, je me suis trouvé un petit travail de serveuse au restaurant du coin. Mais je n'y étais pas heureuse. Après que mon amie Nicole m'eut parlé de cette façon, j'ai décidé de changer d'occupation, étant assurée que ça m'aiderait. Quand j'ai trouvé un emploi dans un grand magasin de vêtements pour dames, je me suis dit que ça me rappellerait peut-être trop ma boutique. Mais non, finalement je m'y suis habituée et j'y suis demeurée. Mais les problèmes que je vis dans ce magasin sont différents. La patronne est bien gentille, mais seulement quand son mari Luc n'est pas là. Voilà un autre homme qui veut n'en faire qu'à sa tête et qui veut contrôler toutes les femmes. Nous sommes 4 commis à part la patronne et il semble prendre beaucoup de plaisir à nous prendre en défaut. J'aime bien mon travail, mais on ne sait jamais sur quel pied danser, car Luc peut arriver à n'importe quel moment. Il semble avoir plusieurs autres activités à part aider sa femme avec ce magasin. Il s'est attribué le titre d'entrepreneur, mais mes collègues et moi l'avons baptisé le preneur, ce qui lui convient beaucoup mieux. C'est lui qui nous donne notre salaire chaque semaine, et si l'une d'entre nous a été performante au cours d'un mois et mérite un salaire beaucoup plus élevé, on dirait que ça lui crève le cœur de la payer. Nous recevons un salaire fixe chaque semaine et avons un quota de vente à atteindre selon les jours travaillés. Lorsque nous dépassons ce quota, à la fin du mois, nous recevons 10% des ventes additionnelles. Je trouve ce système très motivant. Je ne comprends pas le point de vue du patron. S'il doit payer une bonne commission à l'une de nous, c'est signe qu'elle a fait de très bonnes ventes, ce qui est avantageux pour le magasin. Pour ma part, je serais très heureuse de donner un gros chèque de commission à chaque employé tous les mois. Es-tu d'accord? Je ne veux pas prendre de notre temps pour discuter de ce que ton patron fait. L'important dans tout ce que tu viens de me dire au sujet de ta vie professionnelle, c'est ce que tu vis. Revenons à la culpabilité que tu ressentais suite à la faillite. Dis-moi, quand tu as pris la décision de faire faillite, avais-tu l'intention de nuire à quelqu'un, principalement à cette vieille dame? Au contraire, j'ai essayé de retarder cette décision le plus longtemps possible, mais je n'en pouvais plus. Je m'endettais toujours plus et j'avais l'impression de m'enfoncer dans un trou noir. J'avais de plus en plus de difficultés à prendre des décisions et quand je me décidais, je me remettais sans cesse en cause. Quel enfer! Maintenant, je comprends davantage mes parents qui répétaient souvent qu'il est très dangereux de s'endetter, que ça ne peut que causer des problèmes. Ils ont dû vivre quelque chose de semblable. Je ne m'en souviens pas, mais ce n'est sûrement pas pour rien qu'ils me mettaient ainsi en garde. Tu vois, tu viens à nouveau de faire un lien avec tes parents. On peut se rendre compte, d'après ce que tu viens de dire, que tes parents et toi aviez tous la même croyance. Est-ce que tu vois maintenant pourquoi cela t'est arrivé? Parce que tu le croyais. Nous créons sans cesse en fonction de ce que nous croyons. Tu désirais certainement réussir en affaires, mais tu croyais que s'endetter signifiait problème et danger, et tu as donc fait faillite. Au moins, le bon côté de l'histoire, c'est que tu prends conscience de ton grand pouvoir de créer. Maintenant, il ne te reste qu'à décider de réaliser ce que tu veux au lieu de ce que tu ne veux pas. Mais à ce moment-là, tu ne savais pas que tu croyais que endettement égale danger, problème. Est-ce que tu veux continuer à croire cela? Tu as raison. Chaque fois que je me suis endettée, j'avais la peur au ventre. Mais je croyais que tout le monde vivait la même chose. Tu veux dire qu'il est possible de s'endetter sans avoir peur de ne pas arriver à rembourser? Ça me semble difficile à croire. Comment une personne peut-elle être sûre de l'avenir? Sûre qu'elle va trouver l'argent nécessaire pour payer sa dette? Tu as certainement entendu l'expression que « nous créons notre avenir selon notre moment présent », n'est-ce pas? Oui? Eh bien voilà, c'est ainsi que nous créons notre futur, en fonction de la certitude que nous avons face à n'importe quelle situation. Tu vivais dans la certitude qu'il arriverait quelque chose de dangereux, c'est donc ce que tu as créé. Si tu avais été dans la certitude que tu trouverais le moyen de rembourser ta dette, c'est ce que tu aurais créé. Comment puis-je arriver à changer ce que je crois? Il n'y a qu'un moyen, et je te le répète, par l'acceptation. Tu dois commencer par accepter le fait que lorsque tu as décidé de faire faillite, tu écoutais tes besoins du moment et que tu n'avais aucune mauvaise intention. Accepte le fait que toutes les personnes sont limitées et que si l'une n'écoute et surtout n'accepte pas ses propres limites, elle se fait beaucoup de mal physiquement, mentalement et émotionnellement. Ensuite, tu dois accepter que tes parents qui véhiculaient la peur du danger suite à un endettement le faisaient en croyant sincèrement te protéger pour plus tard. Eux non plus n'avaient pas l'intention de te nuire. C'est seulement après avoir accepté d'avoir cru à la même chose que tes parents, en étant convaincu que c'était pour ton bien, que tu pourras arriver à croire à autre chose. Comme tu es devenue consciente que cette croyance ne convient plus à tes besoins, tu peux maintenant décider de ce que tu veux véritablement. Tu n'as même pas besoin de remplacer cette croyance par une autre. Tu n'as qu'à demeurer en contact avec ce que tu veux et agir en conséquence. Peu à peu, à mesure que nous nous libérons de croyances qui ne sont plus utiles, nous nous dirigeons davantage vers le savoir, la certitude de ce que nous voulons. Voilà, c'est ainsi que tu peux arriver à changer ce que tu crois. Comment te sens-tu avec ce que tu viens d'entendre? Est-ce possible pour toi de te donner le droit d'être humain et d'avoir des limites? Oui, ça me fait beaucoup de bien. C'est comme si je me voyais sous un jour nouveau. Je me sentais tellement coupable que je ne pouvais pas imaginer autre chose. Mais dis-moi, est-ce que ça va durer ou est-ce que je vais recommencer à me sentir coupable et à m'accuser comme je le faisais auparavant? Ta question est très légitime. Quand on commence à faire des transformations pour le mieux, l'ego prend souvent le dessus et nous fait douter de cette nouvelle direction. C'est de la résistance de la part de l'ego. Elle est tout à fait normale. L'ego ne pense qu'à une chose, se nourrir. Il a peur que si tu changes trop, il va manquer de nourriture et disparaître. Tu dois le rassurer en lui rappelant que c'est de ta vie dont il s'agit, que tu as le droit de prendre toutes les décisions que tu veux, que ce n'est pas ta responsabilité de le nourrir. Ta seule responsabilité est d'assumer les conséquences de tes décisions. Donc, ce n'est pas non plus sa responsabilité d'assumer les conséquences de ta nouvelle décision. Il n'a pas à s'inquiéter à ton sujet, car tu te sens prête maintenant à faire face à tes conséquences. Souviens-toi que ton ego n'a pas le pouvoir de décider pour toi. Il n'y a que toi qui puisses le laisser décider. Dès qu'il te sent dans ta certitude, il se met de côté avec plaisir, ne se sentant plus responsable de toi. Si jamais l'ancienne culpabilité revient, tu sauras tout de suite que c'est cette croyance face aux dettes qui refait surface et tu pourras tout de suite te corriger en décidant ce que tu veux. Il est assez fréquent qu'une croyance revienne à la charge, mais elle se manifeste de moins en moins souvent et dure de moins en moins longtemps. Nous allons terminer cette entrevue avec l'autre problème dont tu parlais, celui de ta difficulté avec le patron de la boutique. Est-ce que tu réalises que, quoi qu'il dise ou fasse, ce n'est pas ça qui te dérange, mais bien ta perception qui est influencée par tes blessures? C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes te dérangent plus que d'autres. As-tu remarqué qu'une personne peut agir de la même façon qu'une autre, mais que ce même comportement te dérange davantage venant de l'une d'elles? Donc, ce n'est pas le comportement qui est dérangeant, mais bien ce que la personne ayant ce comportement vient réveiller en toi. Quelle blessure crois-tu est activée avec lui? Je le trouve très injuste avec sa femme, et nous toutes. Il se prend pour un autre et veut toujours décider de tout. Il veut surtout avoir le dernier mot et il est convaincu d'avoir raison. Même s'il se rend compte qu'il a tort, il est incapable de l'admettre. Je te le dis, ce genre d'homme vient vraiment me chercher. Je ne comprends pas comment Louise, ma patronne, arrive à le supporter. Je vois bien que ça l'irrite, mais elle dit qu'elle ne veut pas provoquer la dispute, donc elle préfère ne rien dire et fait semblant de lui donner raison. Chaque fois qu'elle le peut, elle en fait quand même à sa tête. Pour ça, elle doit souvent mentir et faire des choses en cachette. Elle nous dit qu'heureusement, lorsqu'ils sont seuls, c'est beaucoup mieux. Il essaie seulement de nous impressionner pour montrer que c'est lui le vrai patron. Tu ne m'as toujours pas dit laquelle de tes blessures est activée par lui. Ce doit être l'injustice, puisque je le trouve très injuste. D'après ce que je viens d'entendre de ta description de cet homme, il semble que tu l'accuses et le juges beaucoup. Est-ce le cas? Bien sûr, je l'accuse de tous les maux. Je ne suis pas la seule. Mes collègues de travail l'accusent toutes de la même chose. C'est lui le fautif. C'est à cause de son attitude arrogante et intransigeante que nous avons toutes de la difficulté. Je dois te dire que la réponse que tu viens de me donner vient de ton ego qui est blessé. Ce n'est pas la blessure d'injustice, mais bien la blessure de trahison qui est ravivée avec cet homme. Si c'était la blessure d'injustice qui était activée, ce serait toi que tu accuserais, ou tu accuserais ta patronne de laisser son mari agir ainsi envers vous toutes. Hein? Je ne peux pas croire que mes collègues ou moi pourrions nous accuser nous-mêmes, et encore moins accuser la pauvre Louise. Ça ne se peut sûrement pas. Es-tu sûre que c'est possible? Tu me fais rire, tu sais. Tu devrais te voir. Quelle réaction! C'est toujours ton ego qui est à l'œuvre et non ton cœur. Ne t'en fais pas. Tu es comme bien d'autres. Quand nous sommes blessés et en réaction, c'est signe que notre ego a pris le dessus et que nous ne sommes plus nous-mêmes. L'ego doit toujours trouver un coupable. Si ce n'est pas nous-mêmes que nous accusons, c'est l'autre personne. Il est impossible pour l'ego de rester dans l'observation. Il doit toujours colorer la situation de bien ou de mal et se nourrir ainsi. Plus notre réaction est forte, plus la blessure est profonde et douloureuse. Donc, en voyant la réaction que tu as avec ton patron, il est clair qu'il touche à une blessure de trahison importante. La façon de gérer ce que tu vis avec lui est la même que ce que je t'ai conseillé avec Mario. Sinon, rien ne changera, et surtout tu risques de rester bloqué dans ce que tu vis présentement, en t'empêchant de t'ouvrir à de nouvelles expériences professionnelles. Voici une information qui peut t'aider quand tu feras tes étapes de réconciliation. La plupart du temps, lorsque nous vivons quelque chose de difficile dans notre vie professionnelle, on peut faire le lien avec notre vie scolaire ou tout ce qui concerne notre capacité d'apprentissage quand nous étions plus jeunes. Nous terminons cette rencontre en révisant ce que Rita a retenu de ce qu'elle devra faire si elle veut améliorer sa vie professionnelle. À retenir de ce chapitre. L'entourage ne peut changer d'attitude à notre égard que si nous commençons à changer quelque chose en nous. Avant que notre attitude intérieure puisse changer, il est impératif que nous soyons conscients de l'attitude non bénéfique que nous entretenons. On reconnaît un comportement de victime du fait que les gens se plaignent, ne se trouvent pas chanceux, attirent un malheur après l'autre et n'arrivent pas à trouver de solution pour s'en sortir. Notre ego ne veut pas que nous voyions ce que nous critiquons chez les autres, mais notre Dieu intérieur, qui est notre grand ami, s'applique à nous laisser savoir ce que nous essayons de nier. La vie s'occupe sans cesse d'attirer notre attention sur tout ce qui nous empêche d'être heureux. Cette étape est nécessaire pour que nous devenions conscients de ce que nous ne voulons plus être et que nous nous dirigions vers ce que nous voulons être. Les difficultés que nous attirons sont nécessaires pour nous aider à nous découvrir et à nous renforcer. Nous pouvons vivre une épreuve dans la paix intérieure. Pour cela, nous devons observer tout ce qui se passe. Si nous nions le problème, nous le refoulons. Il ne disparaît pas pour autant. Au contraire, nous le nourrissons à notre insu en refusant de nous identifier au problème, puis, un beau jour, il explose. Rien ne peut changer dans notre vie tant que nous ne prenons pas une décision, que nous ne disons pas avec fermeté « voilà ce que je veux ». Un vrai « je veux » doit dépendre seulement de soi. Lâcher prise ne signifie pas ne plus vouloir quelque chose. Ça signifie plutôt être bien même si nous n'avons pas le résultat désiré. C'est faire entièrement confiance à notre Dieu intérieur qui sait exactement ce dont nous avons besoin. Nos désirs viennent de notre mémoire, de nos corps émotionnels et mental, tandis que nos besoins répondent à notre plan de vie. C'est ce dont notre âme a véritablement besoin de vivre et d'apprendre. L'univers sait des choses que nous ne savons pas. Plus une personne veut contrôler sa vie, plus elle attire des situations qu'elle ne peut contrôler, justement pour lui apprendre à lâcher prise et à faire confiance à l'univers. Nous créons sans cesse notre avenir en fonction de ce que nous croyons et selon notre moment présent. Nous le créons également en fonction de la certitude que nous avons face à n'importe quelle situation. À mesure que nous nous libérons de croyances qui ne sont plus utiles, nous nous dirigeons davantage vers le savoir, la certitude de ce que nous voulons. Tous les humains sont limités, et lorsqu'une personne n'écoute et surtout n'accepte pas ses limites, elle se fait beaucoup de mal physiquement, mentalement et émotionnellement. L'ego ne pense qu'à une chose, se nourrir. Il a peur que si nous changeons trop, il va manquer de nourriture et disparaître. Nous devons le rassurer en lui rappelant que c'est de notre vie dont il s'agit, que nous avons le droit de prendre toutes les décisions que nous voulons, que ce n'est pas notre responsabilité de le nourrir. Notre seule responsabilité est d'assumer les conséquences de nos décisions. Donc, ce n'est pas non plus sa responsabilité d'assumer les conséquences de notre nouvelle décision. Il n'a pas à s'inquiéter à notre sujet quand nous nous sentons prêts à faire face aux conséquences. L'ego n'a pas le pouvoir de décider pour nous, c'est nous qui le laissons décider. Dès qu'il nous sent dans la certitude, il se met de côté avec plaisir, ne se sentant plus responsable de nous. Le hasard est notre Dieu intérieur à l'œuvre. il attire à nous ce dont nous avons besoin. Quoi que l'autre dise ou fasse, ce n'est pas ça qui nous dérange, mais bien notre perception qui est influencée par nos blessures. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes nous dérangent plus que d'autres. L'ego doit toujours trouver un coupable. Si ce n'est pas nous-mêmes que nous accusons, c'est l'autre personne. Il est impossible pour l'ego de rester dans l'observation. Il doit toujours colorer la situation de bien ou de mal et se nourrir ainsi. La plupart du temps, lorsque nous vivons quelque chose de difficile dans notre vie professionnelle, on peut faire le lien avec notre vie scolaire ou tout ce qui concerne notre capacité d'apprentissage quand nous étions plus jeunes.